On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non.
Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se tafferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok. Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit avec vous en direct, bien sûr sur RMC Sport News avec Pierre Ducrot, avec Jonathan McCarthy et avec les drôles de dames, jingle, drôles de dames bien sûr. Simonet Rovera qui est au milieu d'une soirée de folie. Salut Simonet.
Ciao, buonasera, bonsoir. Longue soirée. Ouais.
David Lorto qui vient de faire monter Cologne en Bundesliga.
Exact. Allô Fred. Salut Gilbert, salut à tous. Salut.
Et Fred Hermel qui va envoyer Rétafé en Ligue des Champions, dites donc. Salut Fredo.
C'est pas la meilleure nouvelle, mais bon. Hein. C'est pas grave, c'est pas loin de la maison. Voilà Ticos.
Alors, dans quelques minutes, Julien Laurence nous rejoint. Il est actuellement au stade à Manchester. Hein, donc City qui vient de battre Leicester 1-0. Il sera avec nous tout à l'heure. Alors, j'avais prévu qu'on démarre par Fred pour parler du Barça demain. Mm-hmm. Mais il s'est passé un truc incroyable dans le match du Milan AC tout à l'heure, Simonet. Milan face à Bologne, c'était le match du lundi hein, de Serie A. Milan l'emporte 2-1 face à Bologne hein, pour l'anecdote. Donc Milan toujours en course pour pourquoi pas la Ligue des Champions. Mais raconte-nous ce qui s'est passé entre Gattuso et Bagayoko.
Bah, il faut faire un pas en arrière. Après, on va commencer par les matchs. Bakayoko est remplaçant. C'est un choix pas seulement technique, mais lié aussi à ce qui se passait cette semaine.
Sur la sanction, tout ça.
Sanction, l'histoire de la sanction.
Sanction, c'est-à-dire au milieu de la semaine, Bakayoko se présente avec une heure de retard dans l'entraînement. Et l'explication officielle donnée par lui et par son entourage, c'est qu'il est resté en panne d'essence. C'est en panne d'essence,
ça arrive.
Pro, ça peut arriver. Ça t'arrive les jours de l'entraînement, à l'heure de l'entraînement. Bon, croire ça ou pas, Gattuso met tout Milan en punition, mise ouverte forcée jusqu'au match de ce soir. Match très important ce soir, Milan joue sans Bakayoko, un coéquipier se blesse, lui doit rentrer sur le terrain. Il commence à se réchauffer, mais bon, il se met beaucoup de temps, il prend du temps, sa chose va très énerver Gattuso qui fait rentrer un autre joueur. Après, il y a un échange très tendu entre les deux. Et on voit très bien que Bakayoko dit un gros gros mot en anglais à Gattuso, qui lui fait un signe, on va en parler après dans la vestiaire.
C'est quoi le mot anglais? Parce que moi, il faut que... Ça commence par quelle lettre?
Par la F.
Et après, il y a off.
Donc, main.
C'est pas du off.
En gros, off. Va te faire foutre, quoi.
Va te faire foutre. Et Gattuso lui dit, bon... On se verra après dans le vestiaire et je suis curieux de voir ce qui se passera dans le vestiaire.
Il va pas sortir avec un petit coquillard, notre ami Bakayoko.
La seule certitude.
Bon, si ça finit comme ça, je suis pas sûr que Bakayoko ne puisse
il
pas défendre.
Des doutes sur le fait.
C'est malheureux.
Est-ce que Milan va lever l'option d'achat à la fin de la saison? Je pense qu'après ce soir, on a la certitude.
Ouais, c'est surtout ça, voilà.
Un joueur qui est en plein saison et en plein moment difficile pour le match, pour ses coéquipiers. Refuse de cette façon de se réchauffer et de prendre du temps et après envoie faire foutre son entraîneur, je pense qu'il n'y aura pas
d'avantage. Il gâche pas parce qu'il faisait une belle saison en plus.
Il gâche tout parce qu'il faisait une belle saison et je vous dis une chose que ça m'arrive bien d'arriver. C'est pas impossible que son avenir soit encore à Milan, mais de l'autre côté.
Ouf.
Parce qu'il plaît beaucoup en Italie, les joueurs.
Elle a fait une belle saison.
Il a fait une très belle saison.
Ok. Bon. Il appartient toujours à Chelsea. Hein.
Oui, qui appartient toujours. Il avait une option d'achat 35 millions d'euros. Qui Milan voulait lever jusqu'à il y a 10-15 jours.
C'est pas possible qu'il reste à Chelsea, qu'il retourne à Chelsea, qu'il reste là-bas, lui. Chelsea, t'as de recrutement.
Vous, le mercato.
Exactement, Pierre. Exactement.
Il faut voir Sarri. Sarri, c'était lui qui l'avait
fait. Mais c'est pas le genre de joueur.
Là, il y a un contexte spécial avec cette sanction pour Chelsea.
C'est pas son genre de joueur.
Non, mais là, il a pas de choix, là. C'est ça le problème.
Ouais, mais après, il faut voir si ça sert à quelque chose ou pas. Mmh. Oui, c'est toujours un joueur en plus, mais on a vu avec Kaïl comment s'est terminé la saison. Donc, joueur qui n'est pas pressé par Sarri, c'est pas sûr que rester sans jouer, c'est le meilleur pour lui, pour le club.
Mais quel melon. J'espère que le club sera derrière Gattuso, quoi. Que les supporters.
Oui, je suis convaincu 3000% que.
Mais
déjà, la réaction sur les réseaux sociaux des supporters, c'était très, très dur.
Bah oui, de manière.
Qu'est-ce qu'ils sont énervants.
T'as jamais raison hein, quand t'es dans cette position-là.
Oh là là là. Voilà.
Surtout quand dès le départ, c'est toi qui te mets à la faute avec le retard.
Oui, mais ça, c'est pas du foot aujourd'hui, Bakayoko. Au fond, il s'en fout complètement.
Il va se barrer, il est en prêt,
il va aller peut-être à l'Inter, à Chelsea, non,
Gilbert,
et puis basta.
Tu sais ce qui est énervant dans cette histoire, c'est qu'en plus, j'ai l'impression, enfin, il a donné l'impression aux supporters d'être quand même assez impliqué. Il a participé à faire un peu de, à chambrer un peu les équipes adverses.
Cette histoire,
c'est ça qui est un peu dommage, Kessie, quoi, au final.
Cette histoire avec Kessié contre Acerbi, dont j'avais parlé, les maillots, les chambrages, etc. Et la réaction très forte qu'il a eue en Italie sur lui, et la réaction qui a manqué la semaine dernière, quand ça a été lui la cible des insultes racistes par les supporters de la Lazio.
Ouais,
déjà ça, dans sa tête, avait beaucoup cassé la relation avec l'Italie, les Milans. Il s'était senti peut-être pas protégé par les clubs, s'est senti trop accusé par les hautes jugements, les hautes têtes de la fédération italienne à un certain moment. Donc je pense que quelque chose s'était déjà cassé dans sa tête. Ce soir, moi, elle a fait blackout sa tête, parce que tu peux pas répondre comme ça à ton entraîneur, tu peux pas manquer de respect à ton public, à tes supporters comme ça. Après, il y a eu des erreurs, des gestions dans toute la saison du club, parfois de l'entraîneur, des choix, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ce soir.
Bon, on revient sur l'actu italienne tout à l'heure. L'Espagne, mon petit Fredo,
oui.
Demain, grand match, évidemment, entre Liverpool et le Barça. Alors bon, certains disent que de toute façon, il n'y a déjà plus de suspense, hein, puisque les absents à Liverpool, tout ça. On sait, depuis aujourd'hui, c'est officiel, que Salah, donc, est forfait pour ce match. On sait depuis hier que Firmino est forfait également. Alors, à Barcelone, il n'y aura pas Dembélé, mais enfin bon...
Bah, mais de toute façon, Dembélé n'avait pas joué, donc...
Voilà, donc comme ça c'est réglé.
Voilà, vous souvenez de son raté, même de ses deux ratés, dont le dernier à la dernière seconde.
Oui.
Pardon, le but du 4-0, avec un Messi qui se demandait comment il avait pu louper un truc pareil. Dembélé qui s'est blessé ce week-end, dans un match. Et c'est là où on voit la grosse différence de préparation entre Liverpool et le Barça. Le Barça des A-Champions. Mais il a joué avec des mecs qui s'appelaient Pouche, Alania, Todibo, enfin voilà quoi.
Ouais.
C'était même pas une équipe B, c'était quasiment une équipe B prime, voire C. Même le gardien, vous imaginez, c'est même pas c'est Silesen qui a joué. Alors qu'un gardien, ça se fatigue pas. Mais là, on sait jamais si voilà, il sort des pieds en descendant du bus, quoi. Non, enfin, le Barça a pu faire un week-end de repos absolu pour les 13 ou 14. Il y a trois changements, donc peut-être les 14 joueurs qui devraient être sur le terrain de demain soir. Donc on se retrouve avec un Barça qui est dans les meilleures conditions possibles.
Et Liverpool comme a fait une vraie guerre samedi.
Bah oui. Le Barça avait gagné la Liga une semaine avant le match aller. Ils avaient dû jouer avec une équipe presque type. Mais là, ce week-end, ils ont pu se reposer. Donc, j'ai beau prendre cette histoire de tous les côtés, je vois pas comment le Barça pourrait arriver dans de meilleures conditions.
Très compliqué.
C'est
les blessés côté Liverpool, la tension, parce que samedi le match, hein, ils l'ont gagné, mais dans les derniers instants, hein, vraiment. C'était très compliqué. Nerveusement, ils sont sortis, ils sont rincés là.
Mais surtout d'un point de vue psychologique, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Pardon. Et le point de vue psychologique, le Barça ne pense qu'au match de demain soir. Liverpool, ils ont, je sais pas, Pierre, t'as peut-être le week-end quand même qui est là, se dire on a pris 3-0. Est-ce qu'ils vont être à 100% les joueurs de Liverpool dans la rencontre contre le Barça? Je me pose la question.
Si à l'aller, t'avais eu un résultat un peu moins sévère. Là, je pense qu'inconsciemment,
il y a même pas l'énergie du désespoir parce qu'ils ont perdu l'énergie pour le week-end prochain pour le titre.
Ouais.
Au cas où. C'est ça qui est. Donc,
c'est quoi la victoire de City ce soir peut avoir une importance là-dedans, parce que je pense que Liverpool peut se dire aussi le titre c'est quasiment mort aussi parce qu'ils vont pas perdre à Brighton le dernier match City et donc il nous reste cette Ligue des Champions.
Ça peut leur avoir mis un coup sur la tête aussi.
Bon.
Ouais,
non.
Ouais, aussi.
Ils font tout le temps. De toute manière,
c'est pour moi il y a qu'une chose qui peut sauver Liverpool, c'est le scénario. C'est si jamais.
Faut un but dans
le Si jamais le Liverpool arrive à marquer un but assez tôt dans le match, c'est là qu'il va y avoir un regain de d'énergie. Mais ça peut être très vite plié. Ça peut être très vite plié.
Moi je pense qu'il faut quand même un but et une blessure de Messi dans le premier quart d'heure.
Voilà.
Parce que s'il y a qu'un but, voilà. Et surtout, et là, franchement, vous allez dire que je me répète, mais quand vous écoutez le discours de ce type génial qui s'appelle Ernesto Valverde, qui est l'entraîneur du Barça, qui, je suis persuadé que demain soir, le Barça va être beaucoup plus offensif qu'il ne l'a été la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il est tellement pragmatique que la semaine dernière, il s'est dit, voilà, de toute façon, on va avoir un combat, je mets Arturo Vidal au milieu de terrain. Ça a très bien marché. Le but, c'est quand même de pas prendre enfin, le but, l'objectif, plutôt, pour pas faire répétition, c'est de pas prendre de but à domicile. Vous avez vu que le Barça était très bon en défense.
Oui.
A souvent subi, n'a pas lancé des attaques, hallucinantes, histoire de pas risquer de prendre un contre, etc.
Le Barça, Fred, si je peux juste rectifier, le Barça était très bon en défense, mais Liverpool a aussi manqué ce qu'il fallait pas manquer.
Aussi,
ils ont eu les opportunités,
aussi.
Hein. Ils les ont eu.
Quand tu vois dans la tactique de Barcelone, il y avait quand même l'objectif de pas prendre de but.
Oui, oui, c'est vrai.
C'était très clair.
Oui.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit Valverde aujourd'hui dans la conférence de presse d'avant-match? Il nous dit l'erreur serait de vouloir conserver un résultat. Demain, on attaque à fond.
Mais c'est vrai, ils savent très bien qu'il sait marque un but, c'est fini.
C'est 5. Voilà. Et donc, moi je trouve ça génial d'avoir une tactique pour chaque match. Ouais. C'est vraiment très étudié, c'est vraiment très préparé. Vous allez me dire, c'est un topic de dire ça, c'est un lieu commun.
Bah
oui, mais il y a des entraîneurs qui
prennent en plus Messi marche sur l'eau en ce moment, donc c'est
ouais, mais le but est arrivé. Donc l'idée de cet entraîneur génial la semaine dernière, j'insiste, c'était de pas prendre de but, et l'idée demain, c'est d'en prendre.
Tu sais, Fred, d'ailleurs, cette semaine, le sélectionneur argentin Scaloni dit qu'avec un Messi de ce niveau-là, la Copa América, c'était envisageable de la gagner, mais bon.
Oui, problème, enfin, ça c'est notre histoire.
Voilà, ouais,
ça. Mais
ça fait
c'est
beaucoup
pas exactement
parler,
hein. Les mêmes mecs autour. Tu vois, c'est ça
exactement,
le truc,
ouais.
Parce que c'est vrai que, et quand on regarde un petit peu les joueurs du Barça, vous avez compris la semaine dernière pourquoi Piqué et l'Anglais sont deux extraordinaires défenseurs centraux, pourquoi Ter Stegen est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, pourquoi Arturo Vidal a été titulaire, et pourquoi, je dirais même au-delà, pourquoi Valverde l'a demandé en début de saison, alors qu'il correspondait pas au style du Barça.
Et pourquoi il a gardé après les petites embrouilles?
Eh ben voilà,
parce que
ça,
cet
c'est
hiver il était annoncé partant.
Ah bah, mais attends, mais il faisait des tweets contre son entraîneur, etc. Ah,
c'était surréaliste qu'il faisait.
Alors que mais dans plein de clubs il aurait été viré, sauf que Valverde a utilisé ce qu'on appelle en Espagne la mano izquierda, la main gauche. Alors la main gauche, pour faire un peu de culture espagnole, je sais qu'on aime ça dans l'after, c'est que dans la tauromachie on peut torer avec la main droite, avec la muleta, vous savez le voile là, je sais pas comment, la cape, on peut torer avec la main droite, mais on sait torer avec la main gauche. La main gauche c'est quand il faut gagner un peu plus en douceur. Et ben il a utilisé beaucoup de main gauche, Ernesto Valverde, il a réglé le problème Vidal dans le secret du vestiaire, dans le secret de leur relation. Et aujourd'hui, tu as Vidal qui devient essentiel dans la conquête du titre majeur de la saison. Et ça, c'est quand même le résultat d'un travail extraordinaire de cet entraîneur. Au risque de me répéter, je pense qu'il est, avec Messi, le grand vainqueur de ces matchs de qualification qui vont les conduire, logiquement, à la finale de Madrid du 1er juin. Alors, Dembélé, donc Coutinho va être titulaire demain. Dembélé, on se pose la question, il s'est encore blessé ce week-end, quoi. C'est-à-dire que il a manqué.
Ça fait beaucoup sur la saison quand même.
Ah, ouais, sur les deux saisons, je crois qu'il a sur les deux saisons, il manque quasiment une saison en championnat. Je crois qu'il a dû manquer 35 ou 36 journées de championnat sur deux saisons.
Ah, c'est beaucoup.
Donc ça, en gros, il perd ses 38 matchs en Espagne, donc il perd. Donc c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense sincèrement que c'est un bon gars, que c'est un bon joueur. On a souvent parlé de son hygiène de vie, etc. Mais je pense que il y a une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que Dembélé, comme il est blessé, dès qu'il revient, il veut absolument montrer qu'il est valable, et finalement il se reblesse, quoi. Il y a une sorte de cercle vicieux duquel il a du mal à sortir. Alors que je vous rappelle, il avait très très bien commencé la saison. Donc là, il y a de nouveau un mouvement du côté de Barcelone pour dire de toute façon Dembélé, on en a pas besoin. Est-ce qu'on pourrait pas faire une belle opération financière cet été en le revendant?
Parle-nous maintenant de Retafe. Vient foutre ce club en Ligue des Champions? Alors, Retafe, dans l'imaginaire un peu de tout le monde, c'est le petit club de la banlieue de Madrid.
Ouais,
et
bah, oui.
Comme si Fred Hermel avait déjà pas assez de boulot avec le Real et l'Atlético, il faut que le mec il se tape 3 clubs dans sa vie en Ligue des Champions. Non mais Fred, bon, non, ça suffit.
Ça fait un petit peu too much. Oui, il faut laisser aux autres. Alors on va, comme on a rarement l'occasion de parler de Retafe. J'avais fait un avis tranché il y a à peu près un mois pour dire, pour le bien de Retafe, j'espère qu'ils vont pas aller en Ligue des Champions. Sauf que là, ils sont quatrième avec 3 points d'avance, il reste 2 journées. Et que quand tu vois Séville qui est juste derrière et Valence qui quand même ont subi des défaites. Séville a perdu 3-0 contre Leganés à la domicile, à Leganés qui est déjà sauvé, qui n'a aucun objectif. Donc on se retrouve avec un Getafe. Alors Getafe, c'est 25 bornes de Madrid, c'est la banlieue sud, ce qu'on appelle la ceinture rouge, c'est la banlieue ouvrière.
C'est surtout connu de Madrid,
non? Ville juive, non?
Ouais, alors c'est surtout, alors il y a des gros, il y a,
c'est comme si Créteil,
y a par exemple Bobigny, l'aérospatiale, c'est très important pour l'aérien non. là-bas, tu as Airbus, tu as Eurocopter, l'aérospatiale, il y a des grands espaces réservés à l'industrie.
Ah, c'est Aulnay, voilà. Donc. Ouais, c'est plus Aulnay, du coup,
ouais. Ouais, ouais, tout, voilà. Moi, je suis un ch'ti, je connais pas trop la banlieue parisienne, mais bon, je vous fais confiance là-dessus. Le stade, c'est quoi?
C'est Lens pour Lille, alors.
Oui. Oh, tu vas le fâcher, pourquoi là. Oh, tu vas le fâcher,
là. Je suis sur un plan, là. Il y a aussi la cathédrale Santa Maria Magdalena et un Burger King. Voilà.
Ah bah. Ouais, c'est
dans la cathédrale.
Et vous savez, alors, le stade, vous savez, ils appellent ça le Coliseum. Alors qu'il fait une capacité de 15 000, il y a 10 000 personnes. Alfonso Pérez, vous savez Alfonso Pérez, formé au Real, qui a joué au Barça, au Betis, qui joue avec des chaussures blanches, voilà, et qui est natif de Getafe. Donc, franchement, c'est un endroit, mais il fait froid. Même quand il fait chaud à Madrid, il fait froid à Getafe. Catastrophique. Vous allez dire que c'est. Vous avez un président qui a un melon, qui est aussi socio du Real. C'est un club qui a été créé il y a pas longtemps, quoi, il y a une vingtaine d'années. Hein. Voilà, donc son grand rival, c'est Leganés. Ils se retrouvent tous les deux en première division. Le président, qui est un socio du Real, comme beaucoup de supporters de Getafe, qui sont en gros pro Real ou pro Atlético, et qui là, bon, bah, deviennent aussi pro Getafe, parce qu'à l'époque, Getafe, c'était de la troisième division, quoi, ce qu'on appelle ici la Segunda B. Et puis, voilà, il se trouve il y a trois saisons, Getafe était en deuxième division, il risquait de descendre. Ils ont fait l'appel à un type qui s'appelle José Bordalas. Vous savez, c'est le cousin germain de Nico Villas, quoi. Physiquement, c'est quasiment le même visage. Et Bordalas, qui est allé un entraîneur de troisième division, quoi. Voilà. Bah, finalement, ça marche pas mal. Il est sauve. L'année suivante, il est fait monter. Et puis là, quatrième. Alors. Franchement, si on a l'occasion de voir Getafe la saison prochaine en Ligue des Champions, donc sur un sport, bon, je peux pas vous garantir que ça va être un spectacle magnifique.
Fred,
tout le temps, quoi.
Il y a 5-6 journées, j'avais regardé les stats, il y a 5-6 journées, c'était l'équipe dans les 5 grands championnats qui avait le plus faible taux de possession du ballon.
Ah, puis surtout les.
Ils sont au quatrième.
Ça marche aussi en Espagne parfois, ça.
Ça marche, ouais. Mais c'est en Espagne, c'est un ovni.
On dit quoi? On dit bravo les gars, ou on dit vous avez rien à foutre là, vous êtes pourris.
Ça fait chier tout le monde. ça fait chier tout le monde qui soit là,
sauf eux.
Et je vais même sauf eux. Et je vais même vous dire une chose.
En même temps, ça renouvelle un peu le plateau là. Ça fait voilà.
Ouais, mais enfin, excuse-moi, pour la meilleure Liga du monde, Getafe, 10 000 personnes dans le stade.
C'est comment l'ambiance là-bas? C'est un peu chaud, moi.
Mais non, c'est nul.
C'est nul, ok.
Ah, il y a de bons joueurs quand même.
Non, mais ça pourrait être un petit stade chaud.
Je vous parle de la carte postale, moi. Après, comme dit notre grand ami Jean-Michel Larquet, tous les footballs sont légitimes. Avec leurs limites, ils sont très légitimes. Ils sont très forts là-dedans. Moi, je respecte. Mais il y avait même le sentiment en Espagne que la Fédé voulait surtout pas que Getafe soit le quatrième représentant de la Liga en Ligue des Champions. Et c'est vrai que les arbitrages ont été mais pathétiques contre eux, quoi.
Ça sent que Fred, il a fait des arbitres, faire les déplacements.
Il le mérite d'autant plus, alors.
Et il mérite d'autant plus. Il y a eu des exemples de deux pénaltys la semaine dernière, pas sifflés avec intervention du VAR. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Mais ce sont des guerriers. Il y a un entraîneur qui a un discours dur. Voilà, ce sont des gars qui sont à fond. Et puis, tu sais, il y a une mayonnaise qui prend. Vous avez David Soria, vous ne connaissez pas. Il était gardien remplaçant à Séville. D'un coup, il vient là, il fait la meilleure saison de sa vie. Vous savez, Djéné, le défenseur central togolais qui intéresse l'Atletico. D'ailleurs, pour remplacer Godin devra annoncer demain qu'il part à l'Inter, mon cher Simonet.
À 13h, conférence de presse.
Voilà.
J'y suis branché.
Donc, c'est pour dire, c'est ça son départ. Donc, pour le remplacer, ce sera Djéné, peut-être, a priori. Vous avez Mata, qui est un joueur, c'est un petit joueur et voilà, qui met plein de buts. Franchement, c'est une équipe qui, qui n'est pas belle à voir, mais ils sont légitimes, ils sont là.
Et l'autre, on aurait pu citer Dimitri Foulquier, qui vient de Strasbourg.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Il est champion, il a gagné la Coupe du Monde avec Luvin, non?
Il y en a un, il y a l'ami intime de Jonathan. Flamini.
Ah oui, bah, c'est vrai qu'il est toujours là, on l'oublie toujours.
Il joue pas, quoi.
À un moment que je l'ai pas.
Non, mais le gentleman milliard, le footballeur milliard.
Le plus, le plus riche de,
Ah, mais maintenant, Jorge Molina.
Jorge Molina, il a 37 ans.
Ouais.
Non, mais 37 ans. Le mec, c'est la plus, c'est la saison de sa vie. Ouais. Ben ouais. Non, puis là, il marque plus que jamais. Non, mais c'est, il y a une alchimie. De toute façon, quand t'es Retafe pour être quatrième de la Liga, il faut qu'il y ait plein de choses qui s'allient à un moment donné, quoi. Et là, voilà. Donc, mais rassurez-vous, les amis, je serai bien présent à Retafe la saison prochaine. S'il faut aller couvrir Retafe, même si pour la presse,
c'est évident
de marcher. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour bosser avec eux en plus, parce qu'ils ont melon. Donc,
c'est vrai, il y a Aurent Barry qui est peut-être passé par Bordeaux. Vous vous rappelez, ouais. Le petit milieu uruguayen.
Exactement, exactement. Mais c'est voilà, mais c'est magique et c'est ça aussi la Liga. Mais attendez, c'est aussi la faute d'équipes comme Séville qui ont pas fait le boulot cette saison, de l'Athletic Club de Bilbao qui avait une carte à jouer cette saison et qui l'a pas joué, qui a même failli descendre quand on regardait les résultats à Noël. Valence qui finalement paye aussi le fait de jouer la finale de la Coupe du Roi, la Ligue Europa et la Liga, et surtout un démarrage catastrophique en Liga qu'il paye encore aujourd'hui. Villarreal qui est toujours menacé de descendre de deuxième division, c'est-à-dire que les équipes habituelles ne sont pas là, donc Retafe on a profité, mais je vous assure, c'est vraiment pas
bon. Fred, un mot sur Mariano Diaz qu'on avait un peu oublié là, bon, depuis qu'il était passé par Lyon, il jouait plus trop.
Ben, il jouait pas
complètement. Voilà. Et puis l'attaque, le revoilà avec Benzema n'est pas là et hop, il marque.
Ouais, il a marqué deux buts, mais Mariano va pas rester au Real, quoi. Donc
mais c'est un bon joueur quand même.
Bah franchement, c'est un bon plan pour un club français, ça.
Pas pour le Real, Fred. Ouais, pas pour le Real. Français. Mais pour un bon club de Ligue 1, top 5 de Ligue 1, je suis désolé, c'est un bon joueur.
Même pas top 5.
Ah bah écoute, il a mis sa vingtaine de buts de TTC à Lyon, Fred. Il était pas mal à Lyon. Il était un petit peu agaçant parce qu'un petit peu individualiste et beaucoup de mal à s'entendre avec ses coéquipiers. Mais il a, si tu le cadres bien, ça peut être un joueur qui est intéressant. Pas pour le Real, certes, mais pour une bonne équipe, oui.
Mais c'est un type, tu le mets dans la surface et t'attends qu'il marque. Voilà, c'est tout. Faut pas lui demander de jouer.
Ah, t'es dur.
C'est-à-dire, c'est un,
bon, je veux dire,
c'est
un bon footballeur. Comme ça, ouais.
C'est un bon footballeur.
Pas les empiler non plus.
Je trouve pas qu'il est dur, Fred, là. On l'a vu, Mariano, quand même.
C'est pas que ça, quand même.
Il est sympathique, hein, ce garçon, en plus. Moi, je m'entends bien avec lui.
Ah, il manque plus qu'il morde.
Mais je veux dire, c'était une erreur de casting. Et puis.
Comme Mitroglou. Oui, pour le Real, c'est une erreur de casting.
Mitroglou, il est prêt.
Mais il a pris.
Il revient, le gars.
Deux ans, il est prêté.
Il a loupé peut-être la moitié de la saison à cause de blessures à répétition, liées aussi a priori à un certain stress de ne pas assumer d'être revenu au Real et de voilà, c'est compliqué par moment de revêtir un maillot comme celui-ci.
Bouge pas, dans quelques instants on est de retour. On va parler Allemagne, on va parler Italie, on va parler Angleterre. On attend toujours Julien Laurence, hein, après la victoire de City face à Leicester. Il est au stade. Julien, c'est tout de suite dans l'after avec les drôles de l'âme jusqu'à minuit. Et puis le 32-16 est ouvert. Hein, si vous avez une question ou deux à poser à la drôle de l'âme, c'est maintenant. Profitez-en. Ils sont là, elles sont là. Jusqu'à minuit, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jonathan McCarthy, Pierre Ducrot, plus les drôles de l'âme, c'est le casting de l'after jusqu'à minuit, les 23h26. Julien Laurence va arriver dans quelques instants, les autres sont là. Et si on parlait un peu Bundesliga, tiens, allez, un petit jingle, Lorto.
La retourne va vite tourner.
Rien que ça.
Franck Ribéry.
Forcément, pour parler de Ribéry.
Oh, Franck Ribéry. Eris Nikros ist der Klein. Soll unser König sein vor unserem Rekordverein. Franck Ribéry. Voilà l'une des chansons qui était chantée dans les tribunes de l'Allianz Arena pour Franck Ribéry pendant 12 ans, messieurs dames.
C'est beau.
Magnifique.
Les Champs-Élysées. Combien de fois champion d'Allemagne?
12? 13.
Alors, il est 13 ans, ouais. 13 ans même.
Attends.
Il est pas grand, il est plutôt petit, il doit être notre roi dans notre club record, c'est Franck Ribéry. Alors c'est le refrain, après il y a d'autres paroles, mais c'est sur l'air des Champs-Élysées de Jodassin. 8 fois champion d'Allemagne, Gilbert, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ça. Schweinsteiger, Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philippe Lahm, ils sont 4. Ça va faire 5, ça fait 5 pardon avec Ribéry, et ça peut faire le seul à avoir 9 titres.
Bayern est champion, c'est bien parti.
Il faut relativiser ce chiffre-là parce que c'est une belle décennie pour eux, mais c'est quand même, ça serait quand même le seul à avoir 9 titres dans l'histoire de ce club.
Et tu veux relativiser
en plus.
Non, mais parce que.
Enfin, faut pas relativiser. C'est magnifique ce qu'il a fait là-bas.
Non, mais parce que j'ai préparé mon avis tranché pour ce soir en voulant vous dire, Franck Ribéry est une légende et je peux vous donner quelques arguments, mais je m'attendais à ce qu'un Daniel Riolo peut-être soit là ce soir et me dise tout de suite, wow.
Non, détrompe-toi parce que hier on en a parlé un petit peu et il a tout de suite.
Je savais que t'allais dire ça, du coup il est pas venu.
Non, mais il a tout de suite dit avec le Barça. C'est énorme.
Le Bayern, ouais.
Alors, je pense que derrière, il y avait une idée de, par contre, ailleurs que avec le Barça, avec le Bayern.
C'est une légende, c'est même pas discutable.
Non, mais voilà.
On parle de ce qu'il a fait au Bayern, là. Et ce qu'il a fait au Bayern, c'est exceptionnel.
Ah oui.
C'est exceptionnel.
Juste peut-être, Gilbert, rappeler en 10 secondes pourquoi on parle de Franck Ribéry ce soir. C'est que le Bayern a officialisé hier, vers 11h, par un communiqué, la fin de l'ère Ribéry, donc, à Munich. 12 années de présence. Et bien sûr, légende sur le terrain, parce que en Allemagne, il fait l'unanimité pour ce qui est de ses performances sportives. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui va reprocher ses performances sportives. On est en train de préparer un long reportage pour Transversal, pour RMC Sport 1. On est allé interroger des acteurs majeurs du football en Allemagne, des entraîneurs, des journalistes, des supporters. Tout le monde est d'accord pour dire que sur le terrain, il n'y a pas discussion. Sauf...
Vous n'avez pas réussi à avoir Franck Ribéry ?
Ça va venir.
Il veut ou il veut pas.
Fin de saison, le Bayern a dit, on communiquera, vous aurez accès à lui en fin de saison. Donc pour l'instant, il faut attendre que la saison se termine. Le Bayern n'est pas champion et on peut comprendre cette attitude-là.
Ouais.
Ce qu'on lui reproche avec un petit sourire complice, c'est d'avoir eu parfois sur le terrain les coudes un peu hauts et d'avoir mis quelques coups de coude à des défenseurs, de s'être un peu rebellé.
Il a pris des coups aussi. Hein.
Voilà.
Faut se défendre.
On a accepté en Allemagne que Franck Ribéry ait été parfois bien traité par les arbitres. Qu'il ait eu quelques cartons rouges auxquels il ait échappé. Ça, c'est le terrain. Donc, unanimité sur le terrain. Et alors, en dehors du terrain, il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne. Le décalage est flagrant. Parce que, en Allemagne, il n'y a que la boulevard presseux, comme on dit là-bas, qui s'est vraiment consacré à ces quelques aventures pour passer l'éponge très vite derrière. En 48 heures, souvent, c'était entre guillemets oublié et on passait à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un regard bien plus bienveillant sur ce que Ribéry a apporté au foot allemand depuis 12 ans, aussi bien au Bayern qu'aussi pour les autres, parce qu'il a été un bonheur aussi pour les autres clubs. Et quand on interroge les gens qui suivent le Bayern depuis 20, 30, 40 ans, tout le monde emploie ce terme de légende. C'est intéressant de le comparer aussi au tout meilleur allemand, parce que c'est un joueur étranger. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire c'est peut-être le meilleur étranger de l'histoire de ce championnat. Alors qu'il y a quand même eu des Giovanni Elbert, il y a quand même eu des Pizarro qui sont encore là, qui a marqué 196.
Il a marqué ce week-end encore là.
Il a marqué ce week-end encore un but décisif, Claudio Pizarro. Après, comparé à d'autres, Beckenbauer, pour les Allemands, reste au-dessus parce que c'est le meilleur joueur allemand de l'histoire. Et puis après, ça va se jouer avec des légendes aussi, comme un Gerd Müller, comme un Matthäus, comme quelques autres.
Mais ouais, c'est dire,
Pierre, à quel point Franck Ribéry a marqué l'histoire du foot allemand. Et ça n'est pas fini parce que là, il veut continuer encore un an ou deux, donc ce sera probablement dans un
pays
éloigné, peut-être la Chine aussi. Et ensuite revenir. Le Bayern et son entourage et lui sont d'accord, semble-t-il, pour revenir ensuite.
Intégrer la direction.
Voilà, qu'il joue, qu'il entraîne peut-être une équipe de jeunes dans un premier temps.
Très bien.
C'est un hommage, c'est un respect. On sent quand on va en Allemagne que on met sous un couvercle toutes les petites bêtises qu'il a pu faire parce que...
C'était très franco-français de toute manière, ces affaires.
Et puis aussi, ce sont des maladresses de communication. Et finalement, les maladresses de communication, c'est pas l'essentiel.
Tu sais, le Ribéry, il faut se rappeler, juste avant la Coupe du Monde,
Non mais attention.
Avant tout ça, je pense que c'est avant l'Euro, le premier Euro qu'il fait. Rappelez-vous, TF1 avait même fait en prime time un show, une soirée spéciale Franck Ribéry, où il animait, il faisait rire à la galerie, et c'était vraiment le chou des Français.
Ah bah 2006, donc, 2008, c'est
dingue. Et ce qui s'est passé, c'est juste ces histoires, c'est démêlé avec Zaya, etc. Mais c'est resté, purement dans le cercle franco-français. Je pense qu'à l'étranger, ça a même pas, il y a même pas eu trois lignes.
Il traîne comme un boulet, l'histoire de Nice Now aussi.
Mais c'est franco-français encore une fois, Gilbert.
Et téléfoot en claquettes, ouais. Tout ça.
Mais c'est franco-français. Tu penses que les Allemands l'ont vu, téléfoot en claquettes?
Ce sont des foot.
Pas sûr que tu regardes téléfoot. Les Français, ils aiment les claquettes.
Majeure, mais...
Claquettes chaussettes.
Oui. Oui, c'est vrai.
Il y a quelque chose.
S'il était venu au téléfoot allemand en claquettes, on aurait dit, waouh, bravo. La classe, Franck.
Ouais, c'est vrai.
Franck chez nous,
ça m'intéresse, on a vu en Espagne.
Chaussettes, chol.
Mais il y a une histoire.
Il a pris le numéro 7 après même Mitchell.
Et tu sais que les Birkenstock, c'est très confortable.
C'est horrible, ces merdes.
Arrêtez. Il y a une histoire entre Franck Ribéry et le Real Madrid. On l'avait raconté en direct dans l'after le 31 août 2009. À l'époque, Florentino Pérez était à deux doigts de faire signer Franck Ribéry au Real Madrid. Florentino était revenu au mois de juin à la présidence et il s'était à deux doigts de se faire. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est pour ça que j'ai besoin des lumières de David Lorto. Le Bayern avait très mal démarré la saison 2009-2010, si je me souvenais bien.
Oui.
Si je me souviens bien.
Oui.
Et à l'époque où Lyonnais avait appelé Florentino Pérez en disant, s'il te plaît, on va pas bien du tout.
Oui.
Ne me prends pas Ribéry maintenant. Et dans le cadre des bons rapports qu'il y a entre les vieux clubs historiques qui ont quand même des intérêts communs par rapport aux nouvelles pousses européennes financées par des États étrangers, etc.
Penses-tu
donc mais si on sait très bien ce qui se passe hein. Le Real et le Bayern se détestent sur plein de sujets, mais quand ils voient des petits jeunes qui arrivent qui viennent un peu dans leur plate-bande, on sait très bien comment ça se passe. Donc et à l'époque Ribéry n'était pas venu parce que Florentino Pérez voulait continuer à avoir de bonnes relations avec le Bayern, donc il se faisait une petite faveur mutuelle, mais ça avait été à deux doigts de se faire.
Un mot sur Francfort qui a pris une belle valise là cette demi-finale retour de Ligue Europa.
6-1, c'est ça ?
Encore un record historique.
Ah bon ?
Oui, parce que Gilbert 6-1, le score était entériné à la mi-temps. 6-1, il y a eu 5 buts de mémoire, même peut-être 6 buts de l'adversaire de Francfort ce week-end, qui était Leverkusen, avant la 33e minute de mémoire, et ça n'était encore jamais arrivé dans les 55 années de Bundesliga, 56 maintenant, que 7 buts soient marqués en une seule mi-temps. Alors, moi, mon avis, c'est que Francfort s'est un peu caché, c'est un peu réservé, il y avait des absences aussi. Ça n'est pas quand même très bon signe pour le match retour contre Chelsea jeudi, parce que Francfort est un peu au bout du rouleau, parce que
voilà, leur match aller contre Chelsea, ils jouent 30 minutes en première période et la deuxième période ils n'existent plus physiquement.
Ils avaient trop d'énergie.
Ils ont bien fini 5 minutes.
Sébastien
Haller a toujours blessé à l'abdomen. En revanche, Rebic qui était suspendu revient et ça pèse quand même. C'est important pour Francfort. Là, ils ont subi les foudres d'un club dont je dis un mot en 10 secondes ce soir, Gilbert. C'est le Bayer Leverkusen qui est sur courant alternatif. Mais quand cette équipe fonctionne, avec Kai Havertz, qui vaut 100 millions d'euros aujourd'hui, avec Julian Brandt,
Lucas
avec Holland, avec Alario, avec les frères Bender, c'est une équipe qui est en train de frapper à la porte, backdoor, comme on dirait dans le poker.
Ils reviennent en termes de points, égalité avec Francfort.
Ils peuvent être quatrième en fin de, voilà, exactement, égalité avec Francfort, ils peuvent être quatrième en fin de saison, et on pourrait retrouver le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions la saison prochaine.
C'est une belle équipe, hein.
C'est sympa, peut-être un peu plus sympa que le Retafe de Fred Hermel, mais ça peut être aussi un club qui
parle des supporters de l'OM. Il y a aussi Charles Aranguiz, qui était un des fantasmes marseillais d'un moment.
Très important.
Ce qui est fou, c'est que cette semaine, Francfort peut tout perdre, quoi.
Oui aussi.
Comme Liverpool, dont on va parler tout de suite avec Julien Laurence. Julien, bonsoir.
Et Coupe d'Europe. Oula. Salut les gars.
Salut Julien. Alors tu es au stade à City, hein. Non, il est pas en boîte, il est au stade.
Ça m'aurait pas étonné lui par contre. Hein.
Il est au stade à City. Alors qu'est-ce qu'il se dit dans les travées là? On se voit déjà champion?
Bah un petit peu ouais, il se voit champion, non mais ce qui est impressionnant c'est quand je vois les commentaires de Jérôme Bretagne, ça a été incroyable quoi.
Ah ouais, c'était du haut niveau.
Ouais, c'était du très haut niveau, il était à côté de moi là et j'ai même pas voulu descendre en bas parce que je suis resté à côté de lui pour l'entendre commenter. Tellement il voit le match avant tout le monde quoi.
Ah ouais, non mais de toute façon, en même temps, Jérôme, comment dirais-je, il a été formé à l'after ce mec, donc moi je suis pas étonné qu'il bride mille feux à la télévision. Hein.
Ouais, mais c'est pour ça que les audiences sont excellentes maintenant, hein. De toute façon, depuis qu'il y est un peu plus, c'est impressionnant, mais moi je voulais m'en rendre compte, je l'avais connu avant quand il jouait au Paris Saint-Germain, mais là c'est du très 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 haut niveau.
Tu l'avais pas connu quand il jouait à Caen et à Troyes, non?
Si, parce que partout où il est passé, il a laissé une marque indélébile dans chaque club. Donc, et puis moi, j'ai eu le plaisir de le suivre en tant que journaliste en Rangers, avant que je parte en Angleterre.
À Bastia aussi, tu l'avais vu à Bastia.
Rangers surtout, non.
Ouais, Rangers.
Il a perdu un peu son accent british.
Ouais, il a plus le même accent.
Moi, je me souviens surtout que Florence Lopérez m'avait dit un jour que son rêve avant Cristiano Ronaldo, c'était de faire signer Jérôme Rotten, quoi. Finalement, ça n'a pas pu se faire à cause des exigences financières, mais c'est vrai que c'était quand même le grand rêve de Florence Lopérez.
La vraie question, Fred, c'est est-ce qu'il regrette du coup ?
C'est vrai.
Non,
mais Fred, tu as tout à fait raison. Il me l'a dit, Jérôme, mais je crois qu'il a surtout eu une offre de Barcelone qu'il a refusée. Donc c'est encore plus. Plus impressionnant de sa part d'avoir refusé cette offre de Barcelone, mais bon, c'est comme ça. Mais peut-être que tu le savais pas, Fred.
Non, via l'information sur Barcelone, je savais pas.
C'était en quelle année, Julien, qu'il a eu cette offre de Barça?
Moi, on m'a dit que Jérôme avait refusé le Barça et le Real parce qu'il voulait absolument jouer avec Diané et Pancrat au PSG.
Ouais, parce que donc, j'essaye de situer dans la carrière de Jérôme quand est-ce qu'il a pu refuser le Barça. Julien, si tu peux lui demander.
Je crois qu'il m'a dit. Mais quand il sortait de la finale avec des champions, Pierre, tu sais, la Ligue
avec
des Champions, la fameuse musique.
Bien sûr.
Tu l'as peut-être pas assez écoutée dans ta carrière.
Oh,
mais
une douzaine de fois, c'est pas mal.
Ouais, bon, ça va.
C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
Mais bon, je vous embrasse. Hein. Je vous adore.
C'est sympa.
Meilleur.
Ciao, Julien. Bon, passe tout Jérôme maintenant.
Salut, voilà, Julien. Passe tout le vrai Julien parce qu'on a un truc sérieux à raconter quand même.
Il va vous raconter le match.
Salut Jérôme. Quel grand malade celui-là.
Je suis désolé.
Bon, c'est pas grave.
Bah, t'as pas eu le choix.
Disais Julien.
Tapis, j'ai divisé par deux ce soir, Julien.
Est-ce que là, dans les travées du stade à City, on se voit champion?
On se voit champion, oui, surtout on est soulagé après cette rencontre. Ce soir, on a senti beaucoup de nervosité dans l'avant-match déjà, et puis après, surtout pendant la première heure, on a senti des supporters, et même sur le terrain, des joueurs, mais aussi des supporters vraiment tendus, ce qui était normal. Plus les minutes avançaient, et plus il y avait la tension, plus il y avait de la nervosité, et puis il y a eu ce but incroyable de Compagnie pour libérer tout ça. J'ai jamais vu l'Etihad Stadium comme ce soir, même pas contre Manchester, même pas contre Tottenham lors de l'incroyable remontada qu'ils avaient presque réussi il y a quelques semaines. C'était assez incroyable, et c'est vrai que maintenant, après un but comme ça, tu peux pas ne pas être champion. T'avais les dieux du football avec toi.
Est-ce que le résultat de ce soir de City va avoir des conséquences dans le comportement des joueurs de Liverpool demain face à Barcelone?
Non, je pense pas. Je pense que c'est une autre compétition. Je pense qu'ils étaient tous devant leur télévision ce soir à regarder, à espérer. Jordan Henderson, après la victoire contre Newcastle samedi, avait dit on espérera un miracle pendant le City Leicester, et aussi un miracle demain soir contre le Barça. Sans Salah et sans Firmino, ce sera très compliqué, forcément. Mais je pense qu'ils seront à fond focalisés à fond sur la rencontre de Ligue des Champions demain, et puis après pour la réception de Wolverhampton dimanche, en espérant que Brighton puisse accrocher Manchester City en même temps.
Compliqué, non?
Et ce qui est incroyable pour eux, c'est qu'ils peuvent tout perdre en l'espace de 4 jours, en fait. Mais je pense qu'ils feront la part des choses entre le match de demain et celui de dimanche.
Demain, on y croit? Tu y crois, toi, pour Liverpool?
Alors Pierrot et moi, on y croit à fond. Nous, on est peut-être les deux seuls dans tout RMC qui croyons à fond. Même, c'est sûr que sans Salah et Firmino, c'est plus compliqué. C'est forcément.
Ouais,
plus
ouais, il nous facilite pas la tâche.
Quasi impossible.
Ah ouais.
Ça c'est sûr.
Oh là là.
C'était mission quasi impossible quand ils étaient là. Maintenant qu'ils sont pas là, même Tom Cruise, je pense qu'il peut rien y faire non plus. Mais tu sais jamais ce qui peut se passer.
Oui.
Sur un but tôt dans le match, et puis une ambiance de feu, et puis un Barça qui doute un peu, comme ils ont pu le faire les saisons précédentes.
Messi qui sort la cheville.
C'est quand même un miracle.
Ouais.
Bon, et Tottenham, dis-nous un mot un peu de Tottenham, parce que c'est après-demain, ça, hein, Ajax-Tottenham, là. Et Tottenham, en championnat, c'est pas la joie.
Alors c'est pas la joie, t'as raison. 5 défaites lors des 6 derniers matchs, c'est très compliqué pour eux aussi. On l'a vu contre Bournemouth samedi, où un, ils ont d'abord manqué d'efficacité parce qu'ils auraient facilement pu mener 2-3-0 dans la rencontre à la pause. Et puis après, beaucoup de nervosité avec le carton rouge pour Son déjà, qui est assez impardonnable. Celui de Foyt est tout aussi impardonnable juste après le retour des vestiaires. Donc c'était très compliqué pour eux. La défaite, je pense, à la 91e a fait très mal. Surtout, ça voulait dire aussi que Chelsea, après leur victoire d'hier, à récupérer cette troisième place. C'est une période compliquée pour Tottenham, mais je pense qu'ils peuvent aussi aller à Amsterdam et l'emporter en faisant un match de fou, avec justement Son qui voudra se racheter du carton rouge du week-end, avec une équipe gonflée à bloc, parce que tu peux pas avoir de regrets après une demi-finale. Ils ont eu beaucoup de regrets après le match aller. Ce match retour là, il t'offre la possibilité justement de pas avoir de regrets cette fois-ci. Et autant ils ont montré, je pense, beaucoup de nervosité au match aller, autant cette fois tu peux pas avoir de nervosité. La nervosité, elle doit être du côté des Hollandais, pas de ton côté à toi. Et je pense que ça peut jouer en leur faveur. Ils vont tout donner. Et puis de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre maintenant. Ils sont déjà éliminés au coup d'envoi. Ils vont tout donner, même si ce sera compliqué. Eux, en tout cas, pensent qu'ils peuvent le faire.
Ouais. Un mot sur Manchester United qui n'ira pas en Ligue des Champions. Bon, en même temps, c'est pas non plus la révélation de l'année.
C'est pas une grosse surprise. Ouais,
tout le monde s'y attendait.
Non, mais en revanche, ce qui est surprenant, c'est, je sais pas si Pierrot t'as fait le commentaire du match, ce qui est surprenant, c'est la pauvreté du jeu, encore une fois, d'aller faire un partout à Huddersfield, c'est quand même assez incroyable, même si ouais. Tu es déjà en vacances, ou quasiment en vacances.
Huddersfield qui est dernier, largué.
T'as des joueurs qui savent qu'ils seront plus là la saison prochaine. Une telle performance à ce stade de la compétition, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et on en parlait avec Pierrot hier soir dans l'émission aussi. C'est vrai que d'en arriver à ce degré-là de pauvreté, même pour Solskjaer, de pas avoir trouvé les ressources dans son vestiaire, dans son effectif, pour donner autre chose que ce genre de spectacle-là, moi je trouve ça vraiment inquiétant. Je sais que la saison, Solskjaer fait que dire oui, mais la saison prochaine ce sera différent. J'aurai eu une préparation d'avant-saison, j'aurai les joueurs que je veux, j'aurai surtout les joueurs que je veux pas, je les aurais fait partir. Je trouve que c'est quand même très inquiétant ce qu'ils ont montré depuis 4 à 6 semaines. Ouais.
Julien, merci beaucoup.
Ciao Julien.
Merci à vous les gars.
Et on te retrouve demain, hein, merci, bien ciao. Sûr, pour le duel à distance entre plaisir. Les deux meilleures ligues et Liga du monde.
Ah bah ça joue demain soir, on est d'accord.
Bah y a pas la Ligue 1 demain, qu'est-ce que tu racontes?
Non mais soyons sérieux.
Tout à fait sérieux.
Ça se joue demain en partie, t'as raison, Fred.
Bah oui, parce que a priori, enfin on verra si l'Ajax se qualifie pour la finale, mais
non, Fred, Tottenham peut se qualifier aussi, attends.
Oui, ce c'est sera, pas ça. Ce sera donc pas fini, peut-être. Il y aura de nouveau un Liga quand.
C'est là que ça se jouera.
Ouais, bien sûr, c'est vrai.
Dans quelques instants, on repasse par l'Italie, évidemment, puis tout le reste des infos. D'ailleurs, tiens, j'ai Maxime qui nous dit, j'aimerais bien que Lorto nous dise un mot du Waldhof Mannheim qui vient de remonter en Bundesliga 3. Il y avait 14 000 personnes pour le match du titre il y a deux semaines.
C'est magnifique.
Voilà un club historique.
C'est magnifique.
Il y a 25 000 supporters.
Il y a pas des fous furieux.
En termes de supporters, c'est des fous furieux comme l'Allemagne.
C'est une grande ville, Mannheim, hein, quand même. Mais bon,
ouais, mais quand même. Ouais, bah, tiens, on a des grandes villes ici où il y a 800 personnes au stade.
Oui, c'est vrai.
Allez, à tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot et là, Jonathan McCarty, les drôles de l'âme, bien sûr, sauf Julien Laurence, hein, qui est reparti avec Jérôme Rotten pour une petite salade melon jambon de part.
Oui, d'accord, j'ai compris.
Évidemment.
J'étais étonné sur la salade au départ. Alors, parce que dans les salles de presse, dans les stades anglais, il n'y a pas trop de salade.
Oui.
Oui.
Il devrait manger plutôt de la salade, Jérôme.
C'est plutôt des haricots et des trucs bien gras.
Ouais, t'as souvent des légumes très croquants, voire pas cuits. T'es pas loin du pas cuit. T'es pas loin du pas cuit. Non, avec un petit morceau de viande là. Toujours la même chose. Du rose beef.
Rose beef moutarde, c'est bon.
Ça, tu ne donnes pas très envie là. Bon bref.
Bah non.
Alors Simone, je reviens chez toi en Italie parce qu'il faut que tu nous parles de Icardi, oui. Qui a montré ses tatouages sur Instagram. Bah, oui. C'est pas du foot, mais c'est quand même du foot.
Bah, c'est quelque chose dont qui avait beaucoup parlé en Italie. J'espère qu'on pourra voir quelques photos aussi parce que
on va en parler de ta femme,
c'est un shooting photo qui est sorti cette semaine sur les réseaux sociaux surtout de sa femme.
On oui, là, voilà, je savais qu'on avait parlé de ta femme encore. Vous vous en foutez des tatouages d'Icardi en fait.
Tous ces tatouages dans des positions un peu privées, on peut dire.
Suggestive.
En missionnaire, il est là.
Donc, pas seulement en missionnaire, mais même soumis. un certain moment à sa femme. Et ça fait beaucoup discuter.
En Amazon, là, maintenant.
Est-ce que on parle, est-ce qu'il peut faire ça pendant un moment difficile de la saison où il joue pas, où il joue moins, où il, on parle de lui plus pour les choses dehors du terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un bon moment pour faire des shootings pour un sponsor?
Ou pour ne pas le faire du tout.
Ou pour ne pas le
faire du tout. C'est très mauvais goût.
Vous dire, hier soir.
Le mec est quand même plus tatoué que Jonathan McCarty. Ouais.
Hier soir, une des débats.
C'est quand même des bas records.
Une des débats sur l'après-match de Sky Sport Italie où il y avait Luca Marchegiani, il y avait Giuseppe Bergomi, Alessandro Costa Curta,
ah oui,
Fabio Capello, c'était sur les photos d'Icardi. Donc c'était vraiment,
ah ouais, là,
vraiment un grand moment de la télé italienne pour parler.
Ah oui. Il dit quoi les gars?
Les grands tacticiens.
À leur
bonne position tactique.
Je sais pas, je
vois pas la
je savais qu'il y en a un qui allait parler de ça.
Ouais, il y a beaucoup de profondeur. L'idée c'était, bah, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être nous on est un peu vieux. Mais dans notre époque, nous, on n'aurait jamais fait ça.
Oui. Non, mais il faut pas le faire.
Les femmes sont pas moins.
Il faut pas le faire.
Les joueurs sont pas si moins.
Et donc, peu importe l'âge, peu importe l'époque, il faut pas le faire.
Pour moi aussi, c'est-à-dire, c'est, ils ont battu tous les records de visualisation sur Instagram de leur account.
Ah, voilà, vous avez la réponse.
Au niveau des pubs, c'est extraordinaire.
Vous avez la réponse.
Est-ce que tu parles avec ta nana, Pierre?
Vous avez une... C'est en deux secondes.
Le débat n'est pas là, je vous
de ton équipe avant de montrer tes tout est parti du corps sur Instagram.
Mais on est, mais non, mais on est dans une, non, il a pas tout, femme. Il a pas tout montré quand même, heureusement.
Presque.
Presque, mais pas tout.
Sauf une partie.
Mais t'es dans une ère aujourd'hui où c'est comme ça, Simone. C'est comme ça.
Bah, écoute, moi, je pense que ça
disons fait que c'est la peu... tendance, quoi. Ouais, ça, oui, fait... ça marche comme ça, malheureusement.
Le problème, c'est que chaque moment que tu vois Icardi, tu penses à l'Inter. Parce que c'est le l'ancien capitaine, oui, parce sûr. Que c'est un symbole, etc.
Le fois, tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit à chaque fois qu'on voit Icardi, je pense à sa femme.
Non, tu penses à l'Inter. Parce que c'est d'accord. Le symbole de l'Inter. Et donc, tu penses à l'Inter dans cette situation comme ça.
Ouais,
pour
ça,
moi, pour l'image du club,
c'est très négatif.
Pour un club si important, historique, qui joue avec des champions.
Ça va aller où? Ça va aller où l'Inter et Icardi? Qu'est-ce qui va se passer là?
Ça va se passer que si l'entraîneur change, avant de finir, je vous dis une information qui m'arrive ce soir sur un entraîneur italien.
C'est
si l'entraîneur change, lui pourrait rester. Si Spalletti reste, lui.
Bon, si Allegri vient, lui reste, c'est ça?
Si Allegri vient, mais c'est pas sûr qu'Allegri vient, parce qu'Allegri, apparemment, il a une proposition importante de Paris.
Toi, tu peux pas balancer ça comme ça, Simone.
Il y a eu un blocage. C'est ce qu'on m'a dit ce soir, j'étais en train de rentrer à RMC, on m'a dit, vendredi, il y aura les rendez-vous entre Agnelli et Allegri. Et Allegri ne devrait plus être l'entraîneur de la Juve à la fin de ce rendez-vous. On m'a dit que vendredi soir, on va savoir ça, mais cette information, c'est que même si Agnelli l'a confirmé, en vérité, il ne serait pas du tout content et vendredi, on devrait avoir la réponse définitive. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de dire Allegri ne serait plus l'entraîneur.
Et c'est Conte qui retourne à la Juve alors?
Pas sûr et certain, mais c'est une option, mais c'est pas sûr et certain.
Il y a plusieurs choses
à dire. Attends. Moi, j'aimerais qu'on écoute ce qu'a à nous dire Aurelio De Laurentiis. Okay. Oui, parce que De Laurentiis, il est pas content. Lui, il veut pas de la nouvelle Ligue des Champions. Mais lui, plutôt que de faire comme les clubs français qui disent « Non, on n'en veut pas !» et puis on va sanctionner ceux qui vont. Lui, il fait une contre-proposition.
Il va faire ça, Ligue des Champions.
Non.
Non.
Il dit De Laurentiis « Moi, j'ai mieux. » Moi, je veux pas votre Europa League, là, votre truc fermé, machin. Moi, je veux une compétition ouverte. Mais moi, je fusionne la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Je fais une seule Coupe d'Europe.
Oh, vache.
Qui s'appellera d'ailleurs la Coupe d'Europe. Et oui. Ça fait avec 80 clubs.
Ouais.
Et comme ça, il est sûr d'y être tous les ans.
Attends, il dit, moi je prends les 7 premiers en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, les 4 premiers au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique, et puis tous les autres.
Oui.
Et on fait...
Une partousiante.
Et on fait 4 groupes de 20.
Oui, ah bah oui.
4 championnats.
On fait 4 championnats au milieu de la semaine. Comme ça, au milieu de la semaine, on joue la Coupe d'Europe. Et le week-end, on joue dans le championnat, et tout le monde est content.
Et ça s'agence comment après?
Il y a toujours les championnats.
Ouais.
Et il y a plus de thunes avec
bien sûr.
Et ça s'agence comment alors?
Bien sûr.
Non, mais ça s'agence comment?
Combien de joueurs?
4 championnats
dans la saison.
C'est impossible.
Non, mais c'est-à-dire qu'on joue, au lieu de jouer, parfois, des matchs de Liga en semaine, etc., il y a Coupe d'Europe, comme dit, toutes les semaines, en fait, tout le temps.
Voilà.
Ça
mais qui la gagne au final, cette compétition?
Championnat, ben, à la fin.
Ben, celui
qui je sors de qui gagne.
Non, mais les 4 groupes de 20. Les 4 groupes de 20. Alors, il propose lui 19, c'est pas les matchs aller-retour, il propose 19 matchs secs.
Ouais.
C'est impossible.
Tu vois, t'as juste, t'as pas de match.
Encore plus pourri que le championnat d'Argentine.
Et après,
quoi.
Bon, bah, je pense qu'il veut qualifier les.
Après, tu qualifies les 10 premiers de chaque poule.
Pour demi et
4 poules de 10. Tu qualifies ensuite les 5 premiers.
Franchement, c'est pas une proposition plus débile que celle des autres, hein.
Ah, mais oui. Oh, si, un peu plus, quand même.
Qui retourne faire des films, c'est mieux.
Si, un peu plus, quand même.
Non, mais pourquoi pas
jouer.
Ouais, mais
c'est pour. En tout cas, c'est moins. Ça fait moins ligue fermée que la proposition de Danieli.
Mais ah oui, le nombre de matchs que ça fait.
C'est pas caché que c'est une
équipe. Parce que là, le 7ème de Ligue 1, bah, un Montpellier, un Reims, ils peuvent y aller.
C'est vrai que tu vas faire plein de sous quand tu vas avoir un Montpellier, je te dis une bêtise,
champion d'Islande.
Mais, ouais, voilà, Rétafé, par exemple. Ça va, c'est vrai que là, ça va faire des sous pour tout le monde.
C'est pas du mal de Rétafé, futur.
Non, bah, alors, autre chose, si tu veux, mais.
Bon, voilà, c'était De Laurentiis, hein, son dégât du jour. Tu voulais revenir à un autre sujet,
oui, un sujet, un peu hors sujet, mais. Il y a eu un promu cette année de la Serie B à la Serie A, cette semaine de la Serie B à la Serie A, qui c'est Brescia. Je voudrais savoir si vous savez trois joueurs emblématiques qui sont passés par Brescia.
Baggio.
Oui, Baggio, ouais, forcément.
Baggio.
Signori, peut-être, non?
Non.
Conte?
Non. Non. Mais c'est très très lourd, hein. Avec Baggio. Qui est arrivé à Brescia pour Baggio?
Cassano.
Qui aujourd'hui est considéré les plus grands entraîneurs du monde.
Guardiola!
Oui, Guardiola! Bien vu!
Oh, Guardiola! Ah oui, je l'aurais jamais retrouvé.
Et Andrea Pirlo.
Ah, et Pirlo.
C'est pas sa meilleure période, Guardiola. Mais
Guardiola, je l'aurais jamais retrouvé.
C'est un peu la période où il y avait quelques petits soupçons.
Absolument.
Et tout ça, des analyses,
voilà,
un peu compliquées.
Voilà, des analyses, oui. Et entre autres, Adji, Lucatoni, donc, un club historique qui répond à la
Ligue. Adji, c'est au-dessus de beaucoup de bandes que t'as citées, là.
Ah oui, quand même, ouais.
Adji,
c'est une légende.
Roberto Baggio, Guardiola.
Légendaire.
Ah non, mais Guardiola, le joueur. Excuse-moi, Adji, c'est le type Guardiola, le joueur.
Oui.
Bah oui.
Pour le joueur,
dans les symboles aujourd'hui,
Adji, c'est un joueur extraordinaire.
Ouais, je suis d'accord. Non, mais... Aujourd'hui, il va demander à 100 personnes s'il connaît Adji ou Guardiola. Tout le monde...
Oui, bah oui, bah, c'est
oui,
Guardiola.
C'est un symbole aujourd'hui. Ouais. Donc, et pour le mercato, on parle beaucoup d'un possible arrivée d'une joueur née à Brescia, mais grandi à Brescia, qui est Mario Balotelli.
À la télé, ouais.
Voilà.
Il a mis beaucoup de posts sur Instagram.
Il a fait beau, il a beaucoup fêté la promotion.
Ah bah tiens, puisque tu parles de Guardiola, vous savez qu'il y avait une énorme rumeur concernant Guardiola comme sélectionneur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Et ben en fait non, parce que les Qataris, ils ont dribblé tout le monde aujourd'hui. Ils ont refait signer leur entraîneur, un Espagnol, Fred Félix Sanchez, jusqu'à la Coupe du Monde incluse. Alors c'est lui qui les a mis champions d'Asie.
Le Japon de Diroki Sakai, il a fait du bon boulot, ouais. Et en plus ça jouait bien.
Donc il y aura pas de méga big star à la tête du Qatar en 2022. Il y aura Félix Sanchez.
Ah non, il a fait le taf.
Qui est moins connu que les autres.
Jouer, c'était plutôt pas mal.
Mais,
hein.
Mais, bah ouais. Félix Sanchez, il n'est pas le coureur de 400 mètres dominicain.
D'accord.
Rappelez-vous de
Félix Sanchez, qui est totalement inconnu en Espagne, sauf quand il y a un sujet sur le Qatar. Mais vous savez qu'il y a plein d'entraîneurs espagnols totalement inconnus qui sont dans les pays improbables.
Enfin, c'est facile, ça ferait une notion. On peut dire qu'il y a plein d'entraîneurs français inconnus partout au monde.
Bah, oui.
Non, mais c'est vu qu'ils sont inconnus, tu pourras jamais vérifier.
L'entraîneur du Rayo Majada Onda, où joue le premier
final
Enzo en deuxième division, il a été entraîneur au Japon alors que personne n'allait au Japon. Vraiment, il y a eu des entraîneurs. L'entraîneur de l'Iran, ça a quand même été Clemente. Vous vous souvenez de Javier Clemente?
Et Antonetti aussi l'entraîneur au Japon.
Clemente qui a laissé des grands souvenirs à Marseille. Jonathan s'en souvient.
Superbe passage.
Pour finir, j'ai un message de Jimmy, un auditeur fidèle, qui nous dit « Merci de mentionner que Pierre Ducrot a joué avec le PSG en finale de la Coupe Intertoto à Brescia en 2001. »
C'est vrai.
Lui ne s'en souvenait plus.
Si. C'est vrai. Mais non, mais après, moi, je suis pas comme Jérôme Roten. Je me passe forcément toujours en avant. Voilà,
je
préfère que les auditeurs le fassent, c'est beaucoup plus
d'Adrien Rabiot, mais Pierre aurait pu signer à la Juve.
C'est vrai.
Avec Jocelyn Blanchard?
Je sais pas si Jocelyn Blanchard y était à l'époque. C'est vrai. C'est vrai.
Messieurs, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour la Ligue des Champions, bien sûr. Désolé, messieurs Lorto et Simonet, il n'y a pas de Coupe d'Europe demain pour vous. Hein. Bon.
Non, c'est jeudi.
Bah, vous pouvez venir voir les matchs si vous voulez quand même. Ils peuvent venir voir les matchs.
Demain, c'est réservé aux adultes.
Tu sais que Simonet,
c'est carré blanc.
Demain, oui, c'est vrai qu'il est moins 18 ans plus tôt.
Simonet, il y a un truc qui va sauver son mois de juin. C'est la Coupe du Monde féminine. Il y a les Italiennes.
Oui, espoir, c'est jouer en Italie aussi.
Si elle reste longtemps, quoi. Si elle reste longtemps. Elle peut faire qu'une semaine. Hein.
Allez, bonne nuit à tous et à demain.
Ciao,
c'est la fin du match Liverpool-Barcelone. Bonne nuit.
RMC, l'After Foot.